Donc l'approbation du budget primitif. Ben oui, tu peux y aller.
Donc je vais vous présenter le budget primitif. Donc même remarque de forme. En document synthétique au niveau du PowerPoint, vous avez l'ensemble des données dans les documents qui vous étaient remis. Et donc là, c'est une synthèse du budget. Donc budget primitif, principe que je vais rappeler parce qu'il y a quand même des principes à rappeler au niveau budgétaire, c'est le principe d'équilibre budgétaire. Donc on doit avoir autant en dépenses qu'en recettes, on doit toujours être à zéro sur un budget primitif. Donc le budget, nous prévoyons un budget global, donc mélangeant fonctionnement et investissement, légèrement inférieur à 24 millions. Comment sont répartis, quelles sont les différentes répartitions entre le fonctionnement et l'investissement? Donc un peu plus de 60% de notre budget sera consacré aux dépenses de fonctionnement, donc un peu moins de 14 900 000 euros, et les dépenses d'investissement à un peu plus de 9 millions. Comme chaque année, nous établissons ce budget avec des points principaux et des points auxquels nous tenons. En premier lieu, maîtriser les dépenses de fonctionnement, ce que certains ont reconnu tout à l'heure, et que nous pouvons tous constater, tout en maintenant le niveau et la qualité de services rendus aux habitants. Comme on l'a dit lors du débat d'orientation budgétaire et en commission, et on l'a déjà dit précédemment, la ville de Lys offre quand même des services que d'autres communes n'offrent pas. Et pour une ville de 13 500 habitants, tous les services que nous offrons, nous sommes quand même... Les Lyssois ont pas mal de services de proximité au niveau de la commune. Ensuite, maîtriser le niveau de la masse salariale. Mais là, c'est pareil. Je vais encore une fois vous rappeler certaines discussions. La première chose, c'est que nous n'avons pas totalement la maîtrise sur la masse salariale, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations de carrière et l'augmentation due au vieillissement et puis à l'expérience qui est prise et aussi à une volonté que nous avons, que Monsieur le maire a eue et que nous avons appliquée, c'est de ne pas restreindre la volonté d'agents de se former, de passer des concours et d'évoluer. Où là, on suit... au niveau de la politique RH, cette volonté d'évolution et de perfectionnement. Donc quand il y a une évolution et un perfectionnement, il y a mécaniquement une augmentation de salaire qui suit, vu qu'il y a plus de responsabilités. Donc c'est assez logique. Ensuite, maîtriser la masse salariale. On pourrait, ça, on ne l'a pas fait en commission, mais on aurait peut-être pu faire deux ou trois années test. Et dire si on ne remplaçait aucun agent qui partait sur 3 ou 4 années, combien ça représenterait? Mais ça, encore une fois, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'était la vision d'une majorité d'il y a plus de 10 ans maintenant, c'était de ne remplacer qu'un agent sur 2 qui part en retraite, au niveau de l'État, hein, je parle bien. Là, ce n'est pas du tout la volonté, il faut voir où le service peut être modifié, amélioré, adapté, mais il n'y a pas la volonté de supprimer dès qu'il y a un départ en retraite, parce qu'il y a des besoins qu'il faut assumer et une aide auprès des Lyssois à donner. Et ensuite, réaliser les économies d'échelle afin de financer les investissements futurs. Je pense que ça, c'est assez consensuel et ça n'a pas besoin de précisions supplémentaires. Au niveau des taux des différentes taxes, donc au niveau de la taxe d'habitation, pas de changement, 27,70. Je pense qu'on l'a dit, on peut le constater, mais il serait totalement fou de baisser la taxe d'habitation en sachant que les compensations sont basées sur ces années. C'est une perte de recettes à l'avenir. C'est tirer une balle dans le pied. Exactement. Le taux de taxe foncière qui reste à 29,95 et un taux de taxe foncière non bâtie qui va baisser d'1%, donc qui sera à 54,69 donc le taux pour la taxe foncière non bâtie, suite aux discussions que nous avons pu avoir lors des conseils municipaux de l'année dernière et des précisions que nous avons pu obtenir de la part des services financiers. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc les dépenses réelles de fonctionnement sont légèrement inférieures à 13,5 millions. Premier poste de dépenses, les charges de personnel, donc à un peu plus de 8,1 millions. Ensuite, les charges à caractère général, à un peu plus de 3 millions. Les autres charges de gestion courante, un peu moins de 2 millions. Les charges financières et les charges exceptionnelles. Comment avons-nous bâti ces prévisions ? La masse salariale est majorée de 2,15%, soit un peu plus de 171 000 euros, en raison principalement des évolutions de carrière, de la reprise du plan de carrière, donc du PPCR, et du recrutement des emplois d'avenir que nous avons, que nous pérennisons et que nous titularisons. Je tiens aussi à rappeler, dans les effets du compte administratif, avec les résultats que nous avons obtenus, c'est aussi la fin des emplois aidés et des aides de formation qui n'existent plus aussi en recettes qui ont été minorées pour nous. Là, je parle uniquement de la vision comptable, je ne parle pas aussi de la vision humaine qui est importante pour aider les jeunes à mettre le pied à l'étrier. Le fonctionnement courant donc augmente de 5,73%, donc à 167 000 euros, un peu plus de 167 000 euros. Les crédits alloués au fonctionnement des services sont limités afin de me permettre la maîtrise des charges de fonctionnement. Cette hausse provient essentiellement de l'allocation des bâtiments modulaires pour le parc maréchal, donc pour le déménagement transitoire de l'école Paulbert au parc, l'école maternelle Paulbert au parc maréchal pour les travaux qui commenceront lors du mois de septembre. Le déménagement. Les autres charges de gestion courante donc augmentent, donc elles sont stables, hein, parce qu'elles n'augmentent que de 5 000, en prévision, hein, d'un peu plus de 5 000 euros. Cela correspond à une hausse des subventions, donc de l'amicale du personnel et du service politique de la ville. Au niveau de la répartition par politique municipale, donc là, on ne va pas faire de classement ni de tiercé sur. Sur s'il y a des évolutions, qui est ici un classement premier, deuxième. Le premier, ça reste toujours l'enseignement. Donc voilà. Et ensuite, vous avez donc les différents services, le sport, la culture, les relations aux usagers, les services aux familles, l'administration générale, les opérations financières, l'action économique, l'aménagement urbain. Bon, je pense que les chiffres ont été lus, relus, parcourus par chacun. Au niveau des recettes réelles de fonctionnement, pareil, pas de grandes nouveautés. Impôts et taxes, en premier lieu, un peu moins de 10 millions au niveau des prévisions. Les dotations à moins de 3 millions, les atténuations de charges, les autres charges de gestion courante et les produits exceptionnels, qui, comme ils sont exceptionnels, on ne sait pas combien on peut en obtenir. En détail, au niveau de la section de fonctionnement, au niveau des recettes, donc on prévoit une augmentation de 1,76%, avec une stabilisation des concours financiers, donc DGF, donc dotation globale de fonctionnement, la DSU et la DNP. Les droits de mutation, comme je l'avais annoncé au niveau du débat d'orientation budgétaire, on a augmenté les prévisions au niveau de la DMTO. Du fait d'une progression depuis de nombreuses années. Il faut s'aligner aussi sur le... Même si ça reste fragile au niveau du marché immobilier, je ne sais pas si vous avez entendu les différentes remarques et articles sur le sujet, avec la restriction, les différentes contraintes que les banques commencent à mettre en avant sur l'accord de prêt. Donc le marché immobilier risque de changer. Maîtrise de la pression fiscale, donc diminution d'1% du taux de la taxe foncière sur le non bâti. Pas de changement pour les autres taxes. Actualisation des valeurs locatives. Donc, comme je l'avais dit en commission, une différence entre l'augmentation des valeurs locatives pour la taxe d'habitation et pour le foncier. Auparavant, c'était exactement la même augmentation sur les valeurs locatives, mais comme là, maintenant, l'État doit compenser la taxe d'habitation, bah, les valeurs locatives, eh bah, il faut qu'elles soient moins élevées pour la taxe d'habitation, vu que c'est l'État qui va compenser transitoirement pour les années suivantes. Diminution des recettes de remboursement de personnel avec la fin des contrats aidés, donc ça je l'ai dit, mais je le répète. Augmentation des recettes de la CAF avec 24 000 euros. En plus, du fait de l'augmentation des services, ce n'est pas un don particulier, c'est l'augmentation de la fréquentation de nos structures. Dépenses réelles d'investissement, donc un peu moins de 9 millions. Premier poste, donc les travaux. Ensuite, le remboursement d'emprunt, les acquisitions immobilières et l'acquisition de matériel. Pour la répartition par politique municipale, ben, pareil, hein, c'est assez clair. Vous voyez, je n'ai pas dit de bêtises tout à l'heure non plus. Ça reste l'enseignement en premier lieu, du fait de la programmation de l'école de l'Economa, du réfectoire et de l'école maternelle Paul Bert. Donc on prévoit un peu moins de 3,5 millions cette année de dépenses au niveau de l'investissement pour ce grand projet. En détail, donc les investissements, il y a beaucoup d'investissements courants. Je vais en citer quand même quelques-uns. Donc vous avez l'achat d'instruments, l'acquisition de matériel pour les ateliers, l'acquisition de véhicules. Enfin, peut-être si on a besoin, comme on l'avait dit précédemment, s'il n'y a pas besoin d'acheter un véhicule, on n'achète pas. Mais là, c'est au cas où il y a un besoin. Aléas de travaux, donc ça, les aléas difficiles de prévoir. Matériel pour le centre aéré, frais de notaire, logement d'urgence, logiciel mairie, matériel pour la police municipale, matériel bibliothèque, matériel courant pour les écoles, matériel protocole, mobilier culture, mobilier de bureau, mobilier pour le restaurant scolaire. Matériel divers, sport, mobilier urbain, renouvellement du matériel informatique. Donc ça, j'insiste dessus, et on a eu l'unanimité également de la commission, mais on l'avait également évoqué au niveau du débat d'orientation budgétaire, c'est le besoin de sécuriser encore davantage notre parc informatique suite du fait des différentes attaques qui pourraient arriver. Je vais reciter le même exemple, mais la ville de Sequedin qui a perdu toutes ses données depuis une dizaine d'années à cause d'une attaque, donc il faut vraiment être très très vigilant là-dessus. Donc on a besoin de remise à niveau, de renouvellement plus rapide du parc informatique. Ensuite, renouvellement des photocopieurs, les travaux d'accessibilité, les travaux de sécurité, matériel pour la pépinière, l'éclairage public. Donc là, je l'ai dit au DOB, mais je le répète également, le fait que la partie génie civil et la partie acquisition de matériel sont maintenant fusionnés afin de donner une plus grande souplesse à notre prestataire pour agir. L'extension de la vidéosurveillance, la construction de la cuisine centrale réfectoire matériel Paul Bert, l'achat de bâtiments modulaires pour le parc Maréchal. Donc là, on ne parle pas des dépenses de fonctionnement de location qui sont transitoires. Là, on est sur l'acquisition de bâtiments modulaires afin d'agrandir le parc Maréchal sur le très long terme pour accueillir davantage d'enfants lors des différentes périodes d'alésage. L'école maternelle Anatole France, donc des travaux, école élémentaire Paul Bert avec des études et des travaux de remise à niveau, mais surtout la partie études. École balise alerte intrusion, donc ça on a discuté en commission finances. Des essais ont été faits pour au niveau de la sécurité et pour les PPMS, donc obligation qui nous a été donnée par l'État, hein, je rappelle, sans aucune compensation financière, mais ça, c'est ça, le côté financier, c'est pas grave tant que la sécurité des enfants est assurée. On a trouvé un moyen qui a marché au niveau de la communication entre enseignants, nos services et les différentes personnes qui pourraient être concernées. Le terrain, la rénovation du terrain synthétique au stade Jean Chol et également la pose de plaques anti-bruit tout le long du fond du stade, donc le long de la rue des anciens combattants AFN. Les travaux donc à Jules Ferry, des petits travaux pour le dojo, le travaux pour le cimetière, la réfection de l'église, là on est sur la partie vitraux, les différents travaux de toiture, les acquisitions immobilières, mais ça vous l'aurez, on aura des délibérations qui vont suivre, et la les ateliers municipaux pour le bâtiment là des ateliers. Au niveau des recettes des recettes réelles d'investissement, donc on prévoit un emprunt à un peu plus de 4,6 millions, donc on va me dire un peu moins de 4,7 millions. Je vais reprendre le pari et je l'espère, et je sais que ce ne sera pas le cas, que la ville ne doit pas souscrire ce montant, parce que là la ville serait bien embêtée et les Lissois à la fin du lors du budget de l'année 2021, ils verraient un certain changement. Mais comme vous le savez, il faut inscrire toujours une recette en face d'une dépense et il faut que le compte soit à zéro. Donc c'est ça qui sert de variable afin que le budget soit présenté à l'équilibre. Et là, on prévoit donc très peu de subventions. Pareil, là, j'espère cette fois-ci j'espère une explosion du montant des subventions que nous allons obtenir. Les dotations et les participations financières. Au niveau de la section investissement, donc il n'y a pas de cession prévue au budget 2020. Le budget s'équilibre. Voilà. Notre autofinancement de base, on parle bien de base prévisionnelle, diminue légèrement. Vu le montant, on peut même dire une stabilisation avec une légère différence de 17 000 euros sur un peu plus d'1 270 000 euros. Au niveau de l'encours de la dette et des différentes prévisions, je pense que vous avez le tableau et les graphiques qui sont assez qui illustrent assez bien la situation. Le niveau d'investissement, donc où on est sur un cycle plus important, mais ça a déjà été dit. Et je rappelle, ça pourrait vous inquiéter par rapport à ce que je viens de dire, mais les éléments du CA 2022 de 2019 et avant, ce sont des comptes administratifs, donc on parle bien de réalisés. Et au niveau du BP, on est bien sur du prévisionnel, donc du non réalisé, et sur une situation qui semble être la pire, hein, qui c'est pas ce qui va se réaliser, où on voit une capacité de désendettement à 7 ans, un peu à plus de 7 ans, donc on serait même, en ayant une vision très pessimiste, on serait encore en dessous du premier seuil de la première alerte. Mais ce ne sera pas du tout le cas. Au niveau de l'épargne brute, donc on serait sur des choses assez similaires. Donc vous avez ensuite, je pense qu'on va passer très rapidement sur des parce que sur les photos des projets. Donc là, on va parler plus de l'illustration pour l'école Paul Bert, parce que je l'ai évoqué et que je révoquerai encore ce sujet. La première photo ensuite de l'église, du ravalement de l'église, sans les vitraux. Ensuite, donc la rénovation des terrains synthétique au stade Jean Chol. Un type de bâtiment modulaire. Le système de désenfumage au complexe Jules Ferry. Les faux plafonds de l'école Anatole France. La rénovation de l'école... on aurait peut-être pu mettre première rénovation ou première phase de la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert à 163 000 euros. La balise pour MyKeeper pour les exercices de sécurité, les PPMS, l'extension du columbarium et l'extension de la vidéosurveillance et l'éclairage public. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Donc je pense que je vais avoir des questions.
Je suppose. Donc il y a monsieur Boucher qui va nous quitter parce qu'il y a un problème de vertèbre. Donc ça devient pénible. Enfin, merci d'être venu. Pas de problème. On est rassuré, il tousse pas. Il tousse pas. Non. Allez, on continue. Est-ce qu'il y avait des questions particulières ?
Je vais être obligée.
Madame de Mully.
Alors, tout d'abord, on constate que le document est fidèle au débat mené lors du ROB. La situation fragilisée par les efforts de solidarité nationale reste maîtrisée. Là, c'est positif. Mais une fois de plus, sur l'investissement, si les projets peuvent se monter, c'est en partie grâce au financement des excédents capitalisés de la section fonctionnement. Alors, pour ce BP 2020, en ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses réelles sont en hausse de 2,43%. Je passe sur les charges à caractère général, parce que ça s'explique, que vous l'avez bien expliqué, par les bâtiments modulaires du parc Maréchal. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux 5,73% d'augmentation. Maîtriser le niveau de la masse salariale n'est pas facile. Vous l'avez dit, vous ne pouvez pas échapper, bien entendu, pour les carrières à certaines obligations. Il y a quand même une dépense de personnel de 2,15% en plus. Mais j'insiste, parce que des faux bruits ont couru, sur le fait que nous sommes tous d'accord pour le maintien des services à la population. La police municipale, la crèche, une SM par classe et surtout notre excellente restauration municipale. Vous nous avez fourni en commission un tableau avec leurs coûts respectifs. La crèche, 4,72% de la masse salariale, c'est 600 000 euros. Restauration, 900 000 euros. Bon, simplement, quelle que soit l'équipe, il faudra faire attention dans les années à venir. Vous m'aviez dit, dans les 10 ans, il n'y aura peut-être plus de communes, communautés de communes, d'accord. Mais c'est plus là-dessus, sur ce constat-là, que l'on voulait, intervenir. Ce n'est pas, on aurait... De ce point de vue-là, je crois qu'on ne pouvait pas échapper à ces dépenses de personnel. Ben, c'est clair. Par contre, les autres charges à caractère général sont en baisse, de même que les frais financiers. Les dépenses incompressibles sont maîtrisées, mais nous constatons que les dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif 2019 sont de 12 511 000 euros et celles du BP provisionnel, bien sûr, 2020, 13 460 000 euros, soit une hausse de 7,58%. Vous allez me dire, ce n'est qu'un budget prévisionnel, il faut faire attention, il faut payer le personnel, etc. Mais vous prévoyez très large. Et une fois de plus, ce budget 2020 dégagera un très gros excédent. Si l'on étudie la répartition par fonction des dépenses de fonctionnement, on s'aperçoit avec satisfaction que le premier poste est consacré à l'enseignement. Mais on constate des baisses, même si les chiffres ne veulent pas dire grand-chose sur ces sommes, baisses sur la sécurité et la salubrité de 8%, 5% pour la culture, 3% pour l'action économique. Quant aux recettes réelles de fonctionnement, elles sont en hausse de 1,74%. Les recettes par habitant sont de 1 074 euros. Les produits du service des domaines augmentent de 5-10%. Les impôts et taxes, 1,62%. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est qu'une estimation. Prévision établie avec la revalorisation des bases. Et on rappelle la baisse de 1% sur la taxe foncière non bâtie, les 239 euros que la commune ne touchera pas. Les dotations de l'État et les participations augmentent régulièrement. Quant aux dépenses réelles d'investissement, elles sont en hausse, c'est à 9 107 000. L'investissement en travaux prévus, vous nous l'avez montré, c'est 5 719 102. Avec comme principale dépense le groupe scolaire Paul Bert et les bâtiments modulaires, l'éclairage public, la rénovation du terrain synthétique Jean Chol, l'acquisition du 37 rue Jeanne d'Arc et surtout, ce qui est une très bonne chose, les badges de sécurité dans les écoles. En ce qui concerne la répartition par fonction des dépenses d'investissement, donc encore une fois, plus de 50% pour l'enseignement. Les recettes réelles d'investissement sont en forte hausse. Elles s'élèvent à 6 924 358 euros, dont 1 410 000 pour les excédents de fonctionnement capitalisés. Les recettes sont constituées d'un emprunt d'équilibre, vous dites bien pour équilibrer le budget, de 4 690 261. Combien emprunterez-vous? En tenant compte, bien sûr, des subventions demandées qui ne seront affectées que lors du mandatement des restes à réaliser, là est l'inconnu. Et notre adjoint est très prudent. Il dispose d'une calculette et de services très compétents et non d'une boule de cristal. Mais on sait d'avance que vous n'emprunterez pas la totalité et que l'écart risque une fois de plus d'être très important. Que dire de plus de ce budget? Ce dernier est un budget de fin de mandat avec des sommes budgétées qui ne reflètent pas la réalité des dépenses de fonctionnement. Il y a encore une surévaluation pour nous de ces dépenses de fonctionnement. Ceci dit, à côté de cela, il y a quand même des points positifs. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi.
Voilà.
Je pense que vous allez pouvoir voter alors ce budget, vu qu'il y a juste une petite chose, et je vais vous donner les explications sur cette différence. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui est la masse salariale. Ou si, par exemple, il y a quelqu'un qui est en arrêt, on n'a pas de remboursement, donc si on doit employer quelqu'un, il faut toujours avoir une marge financière. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des excédents, et parce que quelquefois on n'a pas besoin de remplacer les personnes parce qu'elles ne sont pas absentes. Donc c'est pour ça aussi, ce sont des principes de bonne gestion. On va reprendre aussi peut-être un des postes qui est important aussi au niveau des dépenses, ce sont les frais de fluide, de combustible, où là c'est pareil. On majore légèrement ce qui pourrait arriver, mais il faut quand même avoir une marge de sécurité au niveau des dépenses d'électricité, de gaz et d'eau. Donc si vous avez, parce qu'il y a beaucoup de critiques là-dessus, mais vous auriez pu présenter un contre-budget, vous auriez pu aussi faire des remarques. D'ailleurs, il y a une année, je vous ai même proposé, je vous avais même écrit, afin que vous me donniez vos perspectives et vos idées. Et ce courrier est resté lettre morte. Donc je pense que si là, cette fois-ci, vous pouvez dire aujourd'hui, ou vu que vous connaissez tous les chiffres, vu que vous avez cité tous les chiffres, vous pouvez le dire et on peut modifier, si vous voulez, en séance le budget. Mais je pense sincèrement que c'est pareil, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et pour l'emprunt, vous avez même donné la réponse à votre question. On sera moins parce que c'est la résultante de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.
Monsieur Ostrat, un peu de pédagogie.
Non, il n'y aura pas de pédagogie. Je vous rassure. Je vois que vous avez compris. J'espère que ça vous hante pas la nuit quand même. Oh. Je m'en voudrais. Moi, ça ne me dérange pas à titre personnel. Et, que le budget prévisionnel soit un peu plus large qu'on voudrait, parce que quelque part, c'est empreint de prudence. Alors, je sais bien, ce n'est pas les habitudes d'antan. Ça change. Il faut vivre avec son époque. Et de faire des prévisions, comme on dit, prévoir, c'est éviter les problèmes derrière. Donc, en espérant que ce sera suffisant, la marge est quand même conséquente. Donc, en espérant qu'effectivement, on n'aura pas des grosses surprises. Certes, il y a les problématiques d'évolution de tout ce qui concerne le personnel. Il y a aussi les problèmes de fluide, vous l'avez dit, mais le carburant et tout ce qui s'ensuit, les assurances, enfin, tout évolue de toute façon. Donc, quand on regarde bien, c'est quand même préférable de voir trop large dans un prévisionnel que de devoir faire sortir la pompe à l'emprunt à la dernière minute parce que on a des contraintes, parce que là il faudra aller vite pour le coup. Donc moi ça me gêne pas forcément. Le tout, c'est qu'effectivement quand on est dans le budget, dans le définitif, qu'on y retrouve bien ses petits, puis qu'on voit ce qui a été fait. J'ai pas de soucis par rapport à ça. Par contre, j'ai des petites questions sur certains postes que je ne comprends pas trop. Je vois des travaux de sécurité pour 100 000 euros, donc j'aimerais bien avoir des précisions pour ce que c'est et ce que ça concerne. Je vois 135 000 aussi pour la vidéosurveillance. S'agit-il de Oui, c'est les caméras supplémentaires, j'ai bien compris. La vidéosurveillance, je sais ce que c'est. Mais le souci, c'est de savoir où c'est positionné. C'est-à-dire, voilà, l'intérêt des choses. Parce que mettre des caméras pour mettre des caméras dans des endroits où c'est pas intéressant, ça l'est pas. Donc, je veux bien, moi, je suis assez terre à terre. J'aime bien voir le budget et ce à quoi il sert. Parce que si on met de l'argent pour dire on en met n'importe où, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, ça, je veux bien. Et je voudrais aussi savoir pourquoi 3600 euros pour le dojo, alors qu'il est quand même relativement récent. Donc, voilà, de quoi il s'agit.
La première réponse pour la sécurité, c'est une enveloppe. On pourrait mettre aléa sécurité, mais c'est pour les différents travaux de sécurité qu'il y a besoin de faire en cours d'année, quand on s'aperçoit que pour les bâtiments, quand il y a des soucis. Au niveau des caméras, bah, c'est les délibérations que nous avons votées lors du dernier conseil de l'année 2019, les implantations. Donc ce sont les caméras qu'on a. Voilà, c'est ces lieux-là. Et ensuite, pour les 3600 euros, c'est le portail. Il y a un portail qui va être mis au niveau du parking. À l'entrée, il y a un portail qui va être mis. Donc, c'est pour la question du portail, pour la sécurité, pour les accès, voilà, pour éviter ces choses-là. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais qui vous m'a fait penser à quelque chose qui était. C'est pas grave.
Une autre question, ça me revient, c'est concernant la baisse des 1% sur le foncier non bâti. Donc, je suppose que vous avez calculé la valorisation et le manque à gagner que ça va occasionner pour la ville. Donc, j'aimerais bien savoir quel est ce montant.
Sur moins de 300 euros. Voilà.
Il y a très peu de fonciers non bâti.
Ensuite, là où je vous remercie de vos propos, c'est par rapport au prévisionnel. On pourrait avoir le raisonnement que Mademoiselle Desmulliers a développé, on pourrait être d'accord si on augmentait les impôts, si on augmentait les tarifs municipaux, si on augmentait ces choses-là. C'est pas du tout ce qu'on a. Non, mais c'est pas ce qu'on a fait au niveau des recettes. Cet argumentaire est possible, mais là aujourd'hui, on reste sur un prévisionnel avec des recettes qui sont plutôt, qui restent les mêmes. Voilà.
Oui, est-ce qu'on peut éviter d'être caricatural à chaque fois? C'est exactement ce que vous venez de faire à nouveau pour la énième fois. On n'est pas d'accord sur le sujet, donc on ne va pas refaire le débat pour la 34e fois. Le fait d'être prudent, la prudence est de mise et c'est du bon sens. Ce qu'on indique, c'est qu'à force de mettre des gilets et des gilets et des gilets et des gilets de sauvetage les uns par-dessus les autres, on ne sait plus bouger et on ne sait plus nager. Voilà.
On est très prudent avec quand même un cycle d'investissement important. Mais comme vous devez le savoir, parce que vous êtes bien mieux informé que moi, il y a quand même des politiques au niveau national, par le gouvernement Macron, qui risquent aussi quelquefois d'avoir des influences importantes sur notre budget. Donc on doit quand même avoir des marges de sécurité, des marges de manœuvre et des enveloppes financières. On en a discuté lors du dernier conseil, mais quand on parle de finances et qu'on parle un petit peu des conséquences nationales que ça peut avoir, vous cachez derrière un impolitisme incroyable. Mais bon, il faut savoir assumer ses convictions et voir par rapport à l'État. Et un côté où nous, on va peut-être avoir un petit souci. Non mais, bien sûr, non mais, il faut prévoir tout ça. Il faut prévoir ces dépenses où l'État se désengage. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de marge de manœuvre financière. Et là, aujourd'hui, il y a un budget qui est solide et qui prépare un cycle d'investissement important. Et s'il y a besoin d'un petit peu de dépenses supplémentaires de fonctionnement du fait du désengagement de l'État, eh ben on pourra peut-être y faire face.
Effectivement, vous l'avez dit.
Bah oui, parce que le désengagement de l'État, hein, déjà les 800 000 euros, les 800 000 euros qu'on perd chaque année, c'est Macron qui a été conseiller de François Hollande et qui a suggéré cette mesure. Alors, Macron est toujours au pouvoir, donc il faut toujours s'en méfier.
Bien. Monsieur Strat.
Oui, je voudrais qu'on revienne au budget, si c'est possible. L'intérêt, c'est les Lissois. Après, ce qui se passe ailleurs, ça les regarde.
Ça nous coûte quand même. Ça nous coûte quand même.
Voilà. Donc, ce que je voudrais voir dans ce budget, c'est que, bon, j'avais parlé lors du dernier conseil municipal de l'intérêt de voir effectivement une politique pour tous les Lissois, hein, et toutes les Lissoises, bien sûr. Le souci, c'est que on se rend compte que la situation pour les plus démunis d'entre nous s'aggrave, que l'emploi, malgré qu'on nous annonce des augmentations, enfin, que ça s'améliore, en fin de compte, non, ce sont simplement des effets d'échelle parce qu'on retire les gens, ils ne sont plus rémunérés, donc on ne les considère plus comme chômeurs. Je voudrais savoir s'il y a une action budgétée particulière dans ce budget pour ces personnes, parce que l'Islay Lannoy n'y échappera pas, hein, comme toutes les villes, et on accentue un peu plus la pression sur les personnes qui ont des soucis. Et le problème, c'est que la pression est telle que les personnes ne se déplacent même plus. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour aller les chercher et voir pourquoi elles ne viennent pas, parce que quelque part, il y a aussi le regard vers soi-même et on n'a pas toujours non plus... je dirais le courage, tout simplement, de se dire, je suis dans cette situation-là, mais il faut mettre ma fierté de côté, il faut que j'y aille. Et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se laisser descendre et aller au fond du gouffre et puis attendre qu'on lui tende la main et que ça se passe, quoi. Donc il y a un souci, les gens ne sont plus dans la démarche de venir voir les services, mais à un moment donné, il faut peut-être mettre des choses en place pour aller voir avec peut-être les organismes sociaux qui sont déjà au courant, à travers les écoles et autres, un maillage qui peut exister ou qui existe déjà, qui peut permettre effectivement de remonter des cas qui ne sont pas vus, quoi, parce que c'est pas normal dans un monde comme le nôtre où on est tous égoïstes les uns dans les autres, où on est dans notre maison où tout va bien et puis qu'on regarde pas son petit voisin qui est à côté parce qu'on le voit pas, il sort pas et qu'en fin de compte il est en train de mourir dans son coin.
Je vais encore parler un petit peu d'argent, mais pas que d'argent. Au niveau financier, on laisse les mêmes crédits en sachant qu'il y a toujours un excédent au niveau du CCAS. Donc on laisse les mêmes crédits au cas où il y aurait des demandes encore supplémentaires. Déjà en 2019, il y a eu des demandes supplémentaires. On a discuté lors du débat de rotation budgétaire. Suite à vos remarques aussi de l'année dernière, et puis aussi à un constat qui a été effectué, bien sûr, il y a aussi un travail plus important qui a été fait, un partenariat plus important au niveau avec l'UTPAS. C'est de ce fait... qu'il y a aussi des aides supplémentaires qui ont été accordées aux personnes en difficulté. Bien sûr, après, le souci, c'est qu'on ne peut pas... il faut savoir avoir les bons relais, il faut avoir les bons relais, mais le CCAS et les services municipaux sont très sensibles à ça. Je prends un exemple tout bête, quand il y a des classes de découverte ou alors les ALSH à payer ou des cantines, tout de suite le service régie oriente les personnes vers le CCAS. Donc on essaie au maximum de faire ce qu'on a. Il y a peut-être sans doute des choses à faire en plus. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est pas d'augmenter non plus les tarifs municipaux. Où là, on essaie de garder, malgré une inflation qui existe, je pense notamment au niveau de la restauration scolaire, parce que les produits alimentaires, l'augmentation est assez importante tout de même. Et là, on souhaite garder les mêmes tarifs pour que ça soit accessible pour tous.
Et pour ce qui est du travail, je pense qu'on le verra tout à l'heure aussi. Tout ce qui est aide à l'emploi, je pense qu'on est aussi au fait de ce qu'il faut faire avec la mission locale et tous ces organismes. Ce matin, j'ai encore reçu un jeune chef d'entreprise qui recherche 12 salariés désespérément. J'ai reçu une entreprise de logistique qui recherche aussi des salariés et qui n'en trouve pas. Donc il y a certainement un manque de communication entre des gens qui cherchent et des gens qui espèrent trouver. Mais bon, à l'Islay Lannoy, on fait ce qu'il faut.
Je pense que vous vouliez dire, monsieur le maire, que nous faisons des choses. Parce que quand on entend un édile dire on fait ce qu'il faut, ça veut dire que quelque part, il n'y a plus de problème. Non, on essaye, d'accord, j'entends. On fait des choses, certainement plus qu'ailleurs, je suis aussi d'accord. La problématique du lien entre celui qui cherche et celui qui ne trouve pas, bien souvent, se situe simplement au niveau du mépris, parce qu'on rémunère ces gens-là à la limite du SMIC, voire en dessous.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Enfin, moi, je peux vous dire que je côtoie beaucoup de personnes qui cherchent du travail, qui ont beaucoup de compétences, qui veulent simplement s'adapter. Ils vendent leurs services à n'importe qui. Seulement, la rémunération, c'est toujours en dessous du SMIC. Parce qu'il n'y a pas l'expérience. Et aujourd'hui, quand vous embauchez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, vous êtes en dessous du SMIC. Et ça, c'est au niveau de la loi du travail, c'est illégal. Donc je ne dis pas que ceux que vous avez rencontrés, c'était dans ce cas-là, mais bien souvent, c'est ça, malheureusement. Parce que, expliquez-moi, dans un pays où il y a autant de personnes qui ne trouvent pas de salariés et autant de salariés qui ne trouvent pas de patron, comment on n'arrive pas à s'entendre? Il y a un problème. Quand il y a des gens qui veulent travailler et qui s'en foutent de faire n'importe quoi parce qu'ils ont besoin de manger, qu'on ne vienne pas nous raconter, nous sortir la chanson, de dire non, on ne trouve pas de boulot. Après, il y a aussi des patrons qui se plaignent, qui cherchent du boulot, mais qui n'en cherchent pas, enfin, qui cherchent des salariés, mais qui n'en cherchent pas vraiment.
Il y a aussi un jeune salarié à qui on a demandé de décharger quelques cartables d'un camion, et au lieu de l'élever, il les a traînés par terre.
Non, mais monsieur le maire, des exemples atypiques comme celui-là, il y en a plein. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, le savoir-faire, c'est pas inné. Tout le monde est capable de tout faire, c'est qu'une question de temps et d'implication. Si vous avez des gens à côté de vous qui vous tirent vers le haut, vous montrez. S'il y a des gens qui vous enfoncent, vous montrez jamais. Et notre société aujourd'hui, elle est plus à enfoncer, à stigmatiser certaines personnes qu'à essayer de les relever.
Je pense qu'on est loin de notre budget.
Non, non, mais au niveau du budget, j'ai entendu ce que M. Prokopovitch a dit. C'est vous qui avez fait un écart, monsieur le maire. Le M. Prokopovitch, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Effectivement, c'est louable. Par contre, moi, ce que j'attendais comme réponse, c'est bien les personnes qui ne font pas la démarche parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Il y a des handicapés là-dedans. Il y a des personnes aussi qui sont démunies intellectuellement. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Et voilà. Donc il y a un maillage. Moi, je l'ai vu, et je vais vous dire par quel biais je l'ai vu, par les coupons sport. Quand on suit l'évolution des coupons sport et qui va diminuer sans arrêt chaque année, on ne se pose pas la question de pourquoi. Quand on va voir les associations, elles savent, les associations, qu'ils avaient 3 enfants, et d'un seul coup, ben, comme les parents ils s'en sortent plus, ils se disent ben, « alors je mets lequel au sport ?» Et finalement, ils ne mettent pas. Ils ne mettent pas les trois. Pourquoi je vais favoriser l'un par rapport à l'autre ? Il y a une problématique à ce niveau-là également. Donc le social, il est partout. Et le maillage, peut-être que ces personnes-là, en plus, elles ont d'autres problèmes derrière. Donc ça, c'est, je ne donne pas de leçons, encore une fois, mais c'est une piste de réflexion qui peut vous amener à déceler les familles qui sont en difficulté.
Est-ce qu'on veut passer au vote ? Qui... Bon. Donc... Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Qui est pour ? Je vous remercie. Ensuite, on passe au vote des taux d'imposition, communale.
Délibération adoptée par 27 voix pour et 5 abstentions.